1h à Paris, 23h en temps universel.
Antoine Galen.
Bonsoir. À la une, cette attaque à la voiture bélier au Canada. 11 morts et des dizaines de blessés samedi soir à Vancouver. L'attaque a visé un festival de la communauté philippine. Un drame qui intervient avant les élections législatives ce lundi. L'Iran sous le choc après l'explosion du plus grand port commercial du pays. Le bilan monte à 40 morts et plus de 1000 blessés. L'origine du drame n'est pas encore confirmée. Une marche silencieuse qui a débuté là où le drame s'est produit en France. Près de 2000 personnes ont participé à une marche blanche dans le Gard, deux jours après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée. On y reviendra dans ce journal. Et puis à Rome, au moins 25 000 personnes ont défilé ce dimanche pour se recueillir devant la tombe du pape François.
RFI.
Le Canada en deuil après une attaque sanglante. 11 morts et plus de 20 blessés samedi soir à Vancouver. Un homme âgé de 30 ans a lancé sa voiture dans une foule rassemblée pour un festival de la communauté philippine. L'incident intervient à un moment très particulier. Ce lundi, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Ce dimanche, le candidat et premier ministre Mark Carney a pris la parole à la télévision canadienne. Les précisions d'Eike Schmidt.
Dans un discours à la Nation, le chef du gouvernement s'est dit dévasté, visiblement ému, Mark Carney a rappelé que la communauté philippine avait ce mot pour signifier l'unité et l'entraide. Le mot « bayanihan », nous allons surmonter l'épreuve ensemble, a assuré le premier ministre. L'attaque à la voiture bélier a bouleversé les dernières heures de la campagne électorale. Il est peu après 20 heures samedi soir, lorsqu'un homme fonce dans la foule dans le quartier Sunset on Fraser de Vancouver au volant de son véhicule SUV noir et au moment même où des centaines de Philippins célèbrent la journée Lapu-Lapu en mémoire d'un célèbre chef indigène qui a combattu la colonisation au 16e siècle. Ce sont les participants du festival qui réussissent à maîtriser le conducteur. La police exclut un acte terroriste. Elle précise que l'assaillant, âgé de 30 ans, était connu des services de police et qu'il souffrait de problèmes de santé mentale.
Troisième fois que l'armée israélienne vise Beyrouth depuis le cessez-le-feu du 27 novembre dernier. Le sud de la capitale libanaise a été touché ce dimanche. L'État hébreu dit avoir visé un entrepôt de missiles de précision du Hezbollah et assure avoir tué un membre du mouvement chiite pro-iranien. Le président libanais appelle Washington et Paris à contraindre Israël à cesser ses frappes. L'État hébreu qui a également visé la bande de Gaza ce dimanche. La défense civile palestinienne fait état de 50 morts dans des frappe. Le ministère de la Santé du Hamas a par ailleurs revu à la hausse son bilan provisoire de la guerre dans l'enclave. Le nombre de morts s'élève à 52 243 Gazaouis depuis le 7 octobre 2023. En Iran, après l'explosion du plus grand port commercial du pays, le bilan monte à 40 morts et plus de 1000 blessés. L'origine de la catastrophe n'est pas encore confirmée, mais ce serait probablement les conséquences d'un incendie qui se serait déclenché dans un entrepôt de substances dangereuses et chimiques. Dimanche après-midi, le président iranien Massoud Pezeshkian s'est rendu sur place. Sarah Yasmin Ziani.
Il est arrivé sur les lieux de la catastrophe en début d'après-midi pour présenter ses condoléances, rencontrer certains des blessés à l'hôpital et remercier les secouristes. Plus de 24 heures après la catastrophe, des flammes continuent de ravager le port Shahid Rajaï. Pompiers, bombardiers d'eau et hélicoptères ont pour l'heure réussi à contenir 80% de l'incendie, selon la presse iranienne. La Russie annonce aussi envoyer du matériel pour aider son allié à lutter contre le feu. Une seule zone du port a été touchée, zone dans laquelle ne se trouve aucune cargaison pour usage militaire, indique le gouvernement. Une enquête est ouverte, mais Téhéran n'évoque pas la piste d'un potentiel sabotage. Alors que la fumée continue de se propager, les autorités ont ordonné dimanche la fermeture de bureaux et d'établissements scolaires. Ça concerne les 650 000 habitants de la ville de Bandar Abbas, où se trouve le port en question. Lundi, c'est tout l'Iran qui observera une journée de deuil national.
De leur côté, les États-Unis ont frappé 800 cibles au Yémen, tuant depuis le 15 mars des centaines de Houthis, ces rebelles yéménites pro-Iran. Ce dimanche, des médias Houthis annoncent la mort de 8 personnes dans des frappes américaines sur la capitale Sanaa. La Corée du Nord confirme avoir déployé des troupes en Russie. Elle affirme que ses soldats avaient aidé Moscou à reprendre les zones de la région russe de Koursk sous contrôle ukrainien pendant des mois. Kursk, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dimanche que son armée poursuivait les combats, tout en réfutant l'annonce de sa libération par Moscou. De son côté, Donald Trump demande à son homologue russe, Vladimir Poutine, d'arrêter de tirer et de conclure un accord. En France, près de 2000 personnes ont participé à une marche blanche à la Grande Combe, près d'Alès dans le Gard, ce département du sud de la France. Un hommage deux jours après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée. Le meurtrier est toujours en fuite. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place ce dimanche après-midi pour rencontrer les responsables religieux. Plusieurs élus lui ont reproché de ne pas être venu dès vendredi. Emma Steven de Radio France a suivi cette marche qui est longtemps restée silencieuse.
Les seuls cris et applaudissements, on les a entendus lorsque le cortège est arrivé sous les fenêtres de la mairie sur la place principale du village. Les près de 2000 personnes se sont fait entendre. Elles ont répété en boucle le nom de la victime, Aboubakar, et demandé que justice soit faite pour le jeune homme. Les manifestants l'expriment, pas de doute, selon eux, il a été tué pour sa religion. De très courtes prises de parole des représentants du culte musulman ont suivi la marche blanche. Pendant plus de 2 heures, ils étaient réunis, des habitants de la Grand Combe qui fréquentent la mosquée dans laquelle les faits ont eu lieu. D'autres ne sont pas musulmans, ils habitent la ville et sont juste venus apporter leur soutien. Faire union, décrit Marjorie. Dans ses mains, un rameau d'olivier, symbole de paix, d'une unité nécessaire autour de plusieurs membres de la famille de la victime. Son oncle et son frère sont là, très discrets, au deuxième rang du cortège, les yeux remplis de larmes. Il montre une photo d'Aboubakar, un homme apprécié de tous ici, gentil et attentionné.
Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France, les mots d'Emmanuel Macron sur X. Il a voulu marquer les esprits pour sa première visite au Danemark. Le Groenland n'est pas à vendre, les mots du Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen ce dimanche à Copenhague. Une visite qui acte un rapprochement entre les deux pays, alors que Donald Trump a plusieurs fois averti qu'il voulait prendre le contrôle de ce territoire autonome qui appartient au Royaume danois. Au moins 25 000 personnes devant la tombe du pape François. Émotion saisissante ce dimanche. Au lendemain des funérailles du pape, la basilique Sainte-Marie-Majeure était noire de monde. Reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Jadel Coury.
Une longue file d'attente s'est formée devant la somptueuse basilique Sainte-Marie-Majeure. À l'intérieur, les fidèles peuvent accéder à la tombe du pape François et s'y recueillir brièvement derrière une simple barrière. Martina, originaire du nord de l'Italie, en ressort très émue.
Il faut voir la simplicité de la tombe. Il y a sa croix au-dessus. C'était le symbole du pape. Il y tenait tellement. Il ne la quittait jamais. Il y a aussi une rose blanche déposée sur la tombe, probablement hier. Une rose blanche et c'est tout.
Une simplicité à l'image du pape que Barbara avait pu rencontrer. Elle essuie une larme en sortant de la basilique.
Pour nous, il est toujours là. C'est comme s'il n'était pas parti. J'ai eu le privilège de lui serrer la main. Ses gestes, son sourire étaient uniques et je ne les oublierai jamais.
Martha habite juste à côté de la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'est en voisine qu'elle est venue rendre hommage au pape.
Cette église est la première dédiée à la Vierge. Il paraît qu'elle a été construite ici parce qu'il y a eu un miracle. Donc elle a une signification particulière. Le pape était très attaché à la Vierge du salut du peuple romain. Nous sommes nés dans ce quartier. Alors c'est une très belle chose qu'il ait décidé d'être enterré là.
C'est dans cette basilique Sainte-Marie-Majeure que le pape venait notamment se recueillir avant et après chaque voyage à l'étranger. Muriel Paradon, Jadel Coury, Rome, RFI.
Et les portes de la basilique ont fermé à 20h, temps universel. Avant de refermer ce journal, quelques mots de football. 20e titre en championnat pour les Reds de Liverpool qui égale le record de Manchester United. Ils ont battu Tottenham 5-1. Un succès avec la manière puisqu'ils devancent leur dauphin Arsenal avec 15 points d'avance à 4 journées de la fin du championnat. En France, l'Olympique de Marseille s'impose 4-1 face à Brest, triplé de l'Algérien Amine Gouiri. Les Marseillais reprennent la deuxième place. Pour l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, ça ne passe pas. Défaite 4-1 contre Arsenal en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Les Anglaises retrouveront le FC Barcelone en finale. RFI bientôt 1h10 à Paris, 23h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.